Bonjour, nous sommes donc réunis pour la troisième émission consacrée à l'abbé Guérin, curé de Pomain, et à sa cause de béatification. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le professeur Philippe Pichot-Bravard, historien de renom, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai le plus récent, La Révolution française, aux éditions Via Romana, ouvrage tout à fait remarquable et synthèse d'exception, et celui pour lequel je l'ai plus spécialement invité ce soir, Le Pape et l'Empereur aux éditions Tempora, qui est un ouvrage consacré au rapport de l'Église de France et du Second Empire. Nous sommes donc tout à fait dans la période qu'a vécu l'abbé Guérin. Bonsoir, Monsieur Pichot-Bravard.
Bonsoir, Anne Bernet.
Pourriez-vous avoir la gentillesse d'évoquer pour les auditeurs de Radio Fidélité ce que fut, en ces années 1850, la personnalité du pape Pie IX, avant Jean-Paul II, le souverain pontife qui eut le plus long règne?
Alors, effectivement, le règne du bienheureux Pie IX a été un règne extrêmement important dans l'histoire de l'Église. Il a duré 32 ans. Durée tout à fait considérable, puisque selon la tradition, il n'y a que Saint-Pierre qui aurait été à la tête de l'Église plus longtemps, encore que les dates exactes de Saint-Pierre soient imprécises. 32 ans, 32 années difficiles, le pape est confronté d'une part à la diffusion des conceptions révolutionnaires aux quatre coins de l'Europe. Il est confronté d'autre part à la remise en cause de son autorité temporelle, de son indépendance temporelle en Italie, et à la perte des États pontificaux. Et dans ce 19e siècle qui a été un siècle de combat, qui annonce à bien des égards les combats que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, Pie IX, qui est un pape très pieux, très bon, tous les témoignages insistent sur sa bonté, sur sa piété, a engagé une véritable reconquête spirituelle, illustrée d'abord par la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, et puis ensuite par la condamnation d'un certain nombre d'erreurs qui empoisonnaient les esprits depuis plusieurs décennies, erreurs dont il a dressé la liste dans le Syllabus en 1864. Et puis enfin, cette reconquête spirituelle, elle est illustrée par le premier concile du Vatican, qui est convoqué en 1867, qui se réunit entre la fin de l'année 1869 et l'été 1870, et dont les travaux ont été suspendus en juillet 1870 par le déclenchement de la guerre entre la France et la Prusse. Mais ce premier concile du Vatican a donné lieu à la publication de deux constitutions extrêmement importantes. La plus connue est celle qui a soulevé les passions, c'est la constitution Pastor Aeternus qui affirme le dogme de l'infaillibilité pontificale, mais il ne faut pas oublier l'autre constitution, la constitution Dei Filius, qui, elle, insiste sur l'importance de la relation entre la foi et la raison, et insistant sur cette relation entre la foi et la raison, cette constitution prépare le renouveau des études thomistes dont le successeur de Pie IX, Léon XIII, prendra l'initiative quelques années plus tard, dès le début de son pontificat, en insistant sur l'excellence de la méthode et de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, et prépare la définition par l'Église de sa doctrine sociale, la réponse que l'Église offre dans un monde qui est déchiré par la foire d'empoigne des idéologies. Et Pie IX inaugure un travail doctrinal qui sera effectué par son successeur Léon XIII et ensuite par Pie X, surtout Pie XI et puis Pie XII.
Et comment la personnalité de Pie IX est-elle perçue en France? Parce que nous avons ce petit abbé Guérin, ce tout petit curé de campagne, qui voue à la personnalité du pape, que bien entendu il n'a jamais vu et qu'il ne verra jamais, une dévotion personnelle qui est tout à fait remarquable. On a un document qui est très touchant. Un soir, l'abbé Guérin va occuper ses heures creuses à rédiger la liste interminable des titres qu'il a relevés dans la presse catholique concernant Pie IX, sa sainteté, son éminence, le très Saint-Père, etc. Bon, c'est interminable. Mais on a ce sentiment de dévotion de l'abbé Guérin envers Pie IX. Alors, comment la figure du souverain pontife était-elle perçue en France dans ces années 1850-1860?
Eh bien, le bienheureux Pie IX jouit dans les milieux catholiques le mot popularité est peut-être un petit peu galvaudé, mais en tout cas d'une très grande affection. Il est incontestable que le règne de Pie IX a été un règne au cours duquel le prestige du Saint-Siège, son prestige spirituel, s'est renforcé, où le lien entre les fidèles et le Saint-Siège s'est renforcé. C'est alors tout ça s'inscrit dans une tendance de long terme. Les catholiques se tournent de plus en plus vers Rome depuis la Révolution française. Et puis il y a la personnalité de Pie IX, sa profonde bonté qui touche les âmes et les âmes simples. Il suffit de lire à cet égard la correspondance de Veuillot lorsqu'il revient de Rome. À chaque fois qu'il a vu le pape, il est sur un petit nuage.
L'abbé Guérin est un grand lecteur de Veuillot, il faut le préciser.
Mais il n'y a pas que Veuillot. Francisque de Corcelles, qui était un député plutôt libéral catholique, c'est un petit neveu de Lafayette. Francisque de Corcelles, libéral mais converti, est envoyé à Rome comme ambassadeur en 1849, au moment de la première crise des États pontificaux. Il est envoyé comme ambassadeur par son ami Alexis de Tocqueville. Et on sent qu'après la première audience qu'il a reçue du pape Pie IX, il est lui aussi sur un petit nuage. Il est lui aussi ébloui par les qualités spirituelles du pape. Il est conscient de certaines limites de caractère. Notamment, il est conscient que Pie IX n'est pas un homme de gouvernement, que les affaires politiques le mettent mal à l'aise. Mais il dit, Pie IX est un saint. Pie IX est un saint sur le plan spirituel. Il préfère une persécution ouverte à une situation politique instable, parce qu'au moins une persécution ouverte le place dans une position simple à l'égard de Dieu, alors qu'une situation politique instable, incertaine, filandreuse est une situation qui le met mal à l'aise parce que il n'a pas le sens politique. Voilà.
Pouvons-nous dire d'une certaine manière que nous assistons à l'époque à un transfert de fidélité ou de loyalisme de la part des catholiques français qui, ne pouvant plus se tourner vers la monarchie, se tournent vers la papauté?
C'est assez probable. C'est très probable. Il est certain que dans tout un monde catholique, l'affection pour Pie IX et l'affection pour Henri V vont de pair.
C'est le cas de l'abbé Guérin, sans aucun doute permis.
Il y a, d'autre part, les malheurs de Pie IX, obligé de quitter Rome, chassé par une révolution en novembre 1848, alors qu'on vient d'assassiner son ministre, le comte Pellegrino Grossi, sur les marges du Quirinal. Et puis, il y a l'offensive contre les États pontificaux à partir de l'été 1859, la perte d'une partie de ces États pontificaux dès 1860, et la perte de ce qu'il en reste, c'est-à-dire c'est-à-dire le Latium, en 1870. Il y a eu d'ailleurs ce mouvement de dévouement très désintéressé, très beau, de ces zouaves pontificaux qui sont venus du monde entier, d'Autriche en particulier, de Belgique, de France, du Canada, mais pas seulement. Il y a même eu un Chinois qui est venu de Chine pour défendre le pape. Et dans ce mouvement, il y a beaucoup de désintéressement. Tous ces jeunes gens qui viennent pour défendre les états pontificaux, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont que des coups à prendre. Ils le font par attachement au pape, par attachement au principe et par attachement aussi au droit et à la justice. Ce que rappelle Monseigneur Dupanloup, qui a défendu les états pontificaux en se servant des arguments du droit et de la justice. Alors, il y a ce dévouement des zouaves, il y a cette souffrance du pape, il y a ce dépouillement temporel, et les malheurs que rencontre le pape Pie IX au cours de sa vie n'a fait que renforcer l'affection spirituelle que lui portaient les fidèles. Et on le voit notamment en 1877, lorsque Pie IX, à l'extrême fin de son pontificat, fête ses noces d'or épiscopales. Ce n'est pas donné à tout le monde de fêter ses noces d'or épiscopales. 50 ans d'épiscopat. Eh bien, cet anniversaire donne lieu à des réjouissances à Rome, à des pèlerinages, à un grand afflux de pèlerins qui montrent à quel point le lien entre les fidèles, et pas simplement en France, dans toute la chrétienté et le Saint-Siège, s'est considérablement renforcé pendant ces 32 années de pontificat. Alors, ensuite, pour achever de répondre à votre question, ce transfert de fidélité, à mon avis, apparaît peut-être davantage encore après le pontificat de Pie IX, c'est-à-dire après la mort d'Henri V. Après la mort d'Henri V, Henri V n'a pas d'enfant, donc pour beaucoup de gens qui étaient attachés à Henri V, il n'y a plus rien, parce que les subtilités de l'arbre généalogique sont trop éloignées de leurs connaissances et de leur vie quotidienne, et on assiste incontestablement dans le monde catholique à un transfert d'affection, de fidélité de l'un à l'autre. Mais ce transfert a été préparé par le prestige spirituel du bienheureux Pie IX.
Alors, l'un des grands événements, des événements majeurs en tout cas du pontificat de Pie IX, c'est incontestablement la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, qui a lieu en 1854, qui est une réponse à cette fuite de Rome du pauvre Pie IX en 1848, au moment de cette révolution. Et à ce moment-là, il décide effectivement de se consacrer à Notre-Dame et de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. On a du mal à imaginer aujourd'hui la violence des réactions, particulièrement dans certains milieux français, à l'égard de la promulgation de ce dogme.
Oui, effectivement. Alors, ce dogme, depuis le Concile de Trente, l'idée planait. Ce n'est pas sorti comme cela du jour au lendemain, sans une longue maturation spirituelle.
Je me permets de rappeler, parce que je m'aperçois quelquefois que certaines personnes se trompent, que le dogme d'Immaculée Conception considère que Notre-Dame a été préservée avant sa naissance du péché originel en vertu des mérites à venir de son Fils.
Voilà.
Voilà. Il faut tout de même le rappeler. Et il est très curieux que quelque chose d'aussi simple et d'aussi purement religieux ait pu poser un problème politique en France particulièrement.
Effectivement, dans l'opinion française, toute une partie de cette opinion libérale, gallicane, post-janséniste, réagit très mal, notamment dans le clergé parisien. Veuillot en parle dans sa correspondance. Il dit que certains prêtres étaient inaccessibles, qu'il était impossible d'avoir la moindre conversation avec eux au moment où le dogme a été proclamé. Alors ce dogme, il a d'abord une portée spirituelle et il nous invite à approfondir notre vénération à l'égard de la Sainte Vierge. Immaculée Conception parce qu'elle a été le tabernacle vivant du Christ, et à cet égard-là il y a aussi une référence au dogme de la présence réelle dans l'hostie, qui est l'une des difficultés spirituelles centrales de notre époque. Et puis il y a un aspect politique dans le dogme de l'Immaculée Conception.
C'est ce qui est très intéressant dans votre livre, d'ailleurs, Philippe Pichot-Bravard, c'est que vous mettez en évidence que la proclamation du dogme, et c'est peut-être ce que les anticléricaux ont si bien compris, est en réalité une véritable réponse aux théories révolutionnaires et aux théories des Lumières.
Et notamment à ce propos de Rousseau, considérant que l'homme est naturellement bon et qu'il est perverti par la société. Et à cette réponse, Pie IX répond avec un grand sourire, non, ce n'est pas vrai. L'homme n'est pas naturellement bon. Il y a une Immaculée Conception par privilège divin, par faveur divine. C'est la Sainte Vierge. Les autres hommes ne bénéficient pas de ce privilège. Ils ont été créés par Dieu à son image et c'est ce qui fonde leur dignité, ce qui est leur honneur, mais ils ont aussi été blessés par le péché originel. Et cette blessure implique de leur part un combat permanent pour surmonter les tendances mauvaises, pour lutter contre le péché, pour se convertir eux-mêmes et progresser dans l'amitié du Christ. Voilà. Et donc là, il y a effectivement une réfutation de cette anthropologie rousseauiste révolutionnaire qui considère que si l'homme est malheureux, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de la société. Répond la religion, si l'homme est malheureux, c'est d'abord en lui qu'il doit chercher la source de sa misère, et c'est en lui qu'il doit chercher le remède par une conversion. Et alors que les révolutionnaires invitent à tout bouleverser sauf soi-même, eh bien l'Église invite d'abord à faire un retour sur soi, à se convertir soi-même, à se tourner vers Dieu, avant de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur et de vouloir changer tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà.
C'est quelque chose que l'abbé Guérin, de son côté, a parfaitement compris. On le voit très bien dans ses sermons et dans ses dières, puisque en 1854, lors de la de la promulgation du dogme et puis ensuite, après les apparitions de Lourdes en 1858, qui apparaissent comme la bénédiction du ciel sur la promulgation du dogme, l'abbé Guérin est complètement jubilant et il consacre joyeusement sa paroisse à l'Immaculée Conception. Ce qui est, comme vous venez de le souligner, une véritable prise de position politique dans les deux conceptions du monde, les deux cités Aurélie du Saint-Augustin qui s'affrontent à ce moment-là. Et il faut quand même se dire que dans ces circonstances, cette histoire qui nous paraît si parfaitement anodine, si parfaitement religieuse, relève d'un combat eschatologique dans lequel l'abbé Guérin s'engage, j'allais dire, corps et âme. Mais beaucoup en France ne vont pas réagir de la même façon, n'est-ce pas ? Y compris au niveau politique.
Bien sûr. Alors, cette réaction très vive, elle sera beaucoup plus marquée à l'époque de la promulgation du Syllabus, qui est un texte qui est très mal connu en France, tout simplement parce que l'Empire en a interdit la publication comme contraire aux constitutions de l'Empire. Et ce en quoi Napoléon III avait bien compris qu'il était l'une des cibles de ce texte. On présente souvent le texte du Syllabus comme une réponse au discours de Malines et comme une réfutation du discours qu'a prononcé en cette circonstance Montalembert. C'est une explication, elle est exacte, mais qui restreint considérablement la portée du syllabus. Dans le syllabus sont condamnées toutes les erreurs de la modernité philosophique et notamment toute une politique menée, alors notamment en France, par le Second Empire, dans le prolongement du premier, mais dans pratiquement tous les États, y compris les États catholiques, y compris l'Autriche-Hongrie, enfin l'Autriche qui va devenir Autriche-Hongrie, c'est-à-dire qui est depuis 70 ans prise dans les principes du josephisme, c'est-à-dire une politique dans laquelle l'État se mêle des affaires religieuses, s'ingère dans les affaires religieuses, prétend choisir les évêques, annonce les noms des nouveaux évêques alors que Rome n'a pas encore donné l'institution canonique, ce qui marque un irrespect des règles du concordat, impose le mariage laïque au-dessus du mariage religieux, considère que l'éducation c'est la mission de l'État et avant tout la mission de l'État, donc dépouille l'Église de sa mission enseignante, écarte l'autorité juridique du droit naturel. Ce sont tous ces principes-là qui sont les piliers de la constitution du Second Empire et que Pie IX, dans le syllabus, épingle, faisant la leçon à toutes les puissances temporelles.
On comprend mieux dans ces conditions pourquoi l'abbé Guérin, comme d'ailleurs beaucoup de catholiques français, regarde la chute du Second Empire comme un châtiment du ciel, largement mérité. Merci, professeur Philippe Pichot-Bravard. Je rappelle
c'est moi qui vous remercie.
Vos ouvrages « L'Empape et l'Empereur » aux éditions Tempora et « La Révolution française » paru l'an dernier aux éditions Via Romana. Merci, bonsoir.